Et Mimi, Mimi, tu l'as mis où ?
Ben, de quoi donc ?
Le poste. C'est l'heure.
Ben, l'heure de quoi ?
L'émission, l'agité du local. Sûr qu'elle dépasse tout.
On se réveille le matin, le réveil où les rayons du soleil nous sortent du lit. On est encore chez soi, notre maison, notre appartement, c'est comme un cocon. On aimerait que ça dure, mais déjà les nouvelles du monde nous arrivent. On peine parfois à démarrer la journée. L'élan n'est pas toujours facile, et je vous comprends. Mais nous ne sommes déjà plus le matin. Nous sommes le mardi 12 septembre, il est midi 15, et je vous souhaite la bienvenue dans l'agité du lac du local. On va parler du coin et aujourd'hui, ce sont de bonnes nouvelles par ici puisque l'on part à la rencontre de Anne Duval et Anaïg Lecor pour découvrir l'école Les Pieds dans l'Herbe. Je vous le disais, c'est une bonne journée en Mayenne car aujourd'hui démarre le chaînon manquant à Laval et Changé. Nous avons discuté avec Kevin Douvillier, co-directeur et responsable artistique du chaînon. Ça sera un peu plus tard dans cette émission avant de terminer par la chronique de Donatien qui fait son retour cette année dans l'agité du local. Avant toute chose, je vous propose quand même de faire un petit tour des actualités locales. Séismo Maroc, Florian Berco, maire de Laval, proposera lors du conseil municipal de septembre de voter une aide exceptionnelle de 5000 euros en soutien au Maroc endeuillé. Cette contribution sera déclinée en deux aides distinctes. La première sera versée à Cité Unifrance, association qui gère le Fonds de solidarité Maroc en faveur de collectivités territoriales locales qui ont subi de gros dégâts à la suite de la catastrophe naturelle. La seconde contribution sera versée à une association locale qui viendra en aide aux victimes pour apporter des produits de première nécessité et un soutien matériel aux familles. Les élus municipaux adressent toute leur solidarité à la communauté marocaine. Actuellement au Maroc, les recherches continuent pour trouver des survivants au tremblement de terre. Le dernier bilan officiel fait état de 2681 morts et plus de 2500 blessés. Inondation à Angers suite à des orages qui ont provoqué l'interruption totale des transports ferroviaires. La SNCF annonçait une reprise du trafic milieu de journée. Les sapeurs-pompiers sont intervenus une soixantaine de fois dans la matinée. Une pensée sincère, bien évidemment, pour nos collègues de Radio G à Angers, situés, je le rappelle, rue de la Rame. Nous espérons qu'ils vont bien. La fibre est un objectif atteint en Mayenne. En effet, le département de la Mayenne a atteint son objectif de couvrir 100% du territoire de la fibre optique. Pour rappel, le déploiement a démarré en 2018. Actuellement, déjà un Mayennais sur deux a souscrit à la fibre et dispose d'un large panel de choix d'offres car 19 opérateurs sont présents sur le réseau. De plus, l'ensemble des nouvelles constructions mayennaises aura la possibilité d'un accès à la fibre. Olivier Richefoux, président du conseil départemental de la Mayenne, déclare que le développement de la fibre est un atout majeur pour l'attractivité du département et que l'ambition est de lever les freins et de lutter contre la fracture numérique. La Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles en Mayenne alerte sur l'importante croissance de la population de sangliers en Mayenne. C'est notamment le cas à Chemazé où les agriculteurs font face aux dégâts. Des hectares saccagés malgré l'augmentation du nombre de sangliers chassés. 14 mesures avaient été proposées lors de l'accord national signé au Salon international de l'agriculture en mars 2023. Les agriculteurs de la FDSEA souhaitent que les mesures s'accélèrent, nous révèlent le haut enjou. Pour terminer, Rallycross en Mayenne, le circuit Maurice Forget à Châtillon-sur-Colmont accueillera la 7e manche du championnat de France de Rallycross. Les essais se dérouleront le samedi de 8h30 à midi et pour assister à la première et deuxième manche qualificative, ce sera de 13h30 à 18h30. Les qualifications se poursuivront en matinée le dimanche avant de céder le terrain au spectacle final à partir de 13h45 avec les demi-finales et finales. Le circuit sera long de 1135 mètres en terre et en asphalte. Parmi les pilotes, de nombreux locaux dans les 6 catégories proposées. Christian Bobin disait « C'est doux le chemin de l'école, c'est léger le matin, chantant le soir. On descend une route en pente, elle vous précipite. On dirait qu'elle appelle, qu'elle promet quelque chose. » Aujourd'hui, l'école est au cœur des débats. Refonte des programmes, raccourcissement des vacances d'été, débat sur l'abaya. Je cite notre président qui en parle comme « le cœur de la bataille que l'on doit mener parce que c'est à partir de là que nous rebâtirons la France ». Alors je ne sais pas si c'est au cœur de la bataille que l'on se rend aujourd'hui, mais là où nous allons, sur le chemin c'est doux, c'est léger le matin, et je l'imagine chantant le soir. Nous nous rendons à l'école Les Pieds dans l'Herbe, à Bazougé. C'est une école pas tout à fait comme les autres.
Donc je suis Anne, je fais partie du projet de l'école depuis quasiment les débuts. Donc j'ai participé à la création de l'association en 2018. À l'époque, je n'avais pas d'enfant. et depuis, j'ai un petit garçon qui est scolarisé dans cette école, qui a 4 ans. Voilà. Et je suis actuellement coprésidente de l'association La Jardinière, donc, qui porte ce projet de l'école.
Donc moi, c'est Anna Higue, donc je suis la directrice de l'école. Je suis éducatrice de jeunes enfants de formation et j'ai le poste d'enseignante à l'école. Voilà, donc qu'on peut appeler ici plutôt pédagogue, puisque notre objectif n'est pas forcément d'enseigner d'une manière conventionnelle. Donc le terme pédagogue nous convient bien ici.
On est installé sous le préau sur une table en bois réservée aux enfants. On entend les poules, les canards. À côté de nous, il y a même un paon qui se promène. Donc on est vraiment ici dans l'école à la ferme. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est né ce projet ?
Donc à l'origine, c'est Ylvie de Cam Larsen qui habite sur cette ferme, là où nous sommes actuellement, qui avec la naissance de sa première fille a commencé déjà à réfléchir à ce qu'elle avait envie comme école pour elle. Et Ylvie est originaire des Pays-Bas. Elle a aussi vécu dans différents pays du Nord. Et donc, elle est très inspirée aussi par la pédagogie qui se vit là-bas, et notamment la pédagogie Steiner. C'est présent en elle depuis très longtemps. Elle était aussi inspirée par la pédagogie en forêt, les écoles en forêt, qui existent aussi également plus Pays du Nord ou Allemagne. C'était un peu son point de départ. Et puis après, elle a cherché à mobiliser autour d'elle, voir si elle pouvait constituer une équipe et monter ce projet.
On est plusieurs membres de l'association à avoir été formés, à avoir participé à des formations de cette pédagogie par la nature. Ce n'est pas juste utiliser la nature à des fins pédagogiques ou éducatives, on ne va pas juste se servir de la nature, c'est toute une réciprocité entre la nature et l'enfant, c'est lui apprendre à la connaître pour mieux la respecter, à la ressentir, et ce qui fait qu'en fait, il y a vraiment un émerveillement qui se crée chez l'enfant, ce qui finalement stimule leur curiosité, et à partir de là, quand les enfants sont curieux, en fait, on peut aller très loin avec eux. Et du coup, c'est dans cette optique qu'on va inclure les apprentissages, disons le programme scolaire. On part de leur curiosité, de leurs observations, de leurs envies. Et là, on dissémine le programme, de sorte qu'en fait, ça vienne d'eux et que ça fasse partie de leur petit monde et de leur curiosité. Et là, ils apprennent à une vitesse incroyable.
Vous nous l'avez dit, l'école est au cœur de la ferme. Comment au quotidien, justement, vous faites le lien avec cet espace ?
Toutes les semaines, le jeudi matin, on retrouve Christopher, qui est donc l'éleveur des vaches, et on va nourrir les veaux avec les enfants. Les enfants donnent le lait aux plus jeunes veaux, le foin, voilà. Donc ça les passionne forcément, ça les responsabilise, hein, ça leur donne... une idée de comment on s'occupe des animaux, des besoins des animaux. Et puis, ça permet aussi un lien vraiment avec la ferme. Le fait de faire ça avec l'éleveur, avec Christopher, ça permet de souder un petit peu ces liens. Et que l'école ne soit pas juste une entité seule au milieu de la ferme, qu'il y ait vraiment un lien entre tout ce qui est fait autour. Dans la même idée, on fait du pain aussi avec les enfants le mardi. Donc le même jour qu'au fournil de la ferme, ils sont baignés de toute façon par cette odeur de pain. Voilà. Parfois, on va chercher la pâte qui est toute faite au fournil. Parfois, on fait la pâte nous-mêmes. Enfin, on n'est pas juste une école dans une ferme. On ne profite pas juste des animaux. On essaie de donner aux enfants la conscience du travail qu'il faut. Voilà.
Ce qui est intéressant aussi ici, c'est que les parents, je crois, sont très impliqués dans la vie de l'école.
Comme c'est une école associative, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais oui, on est une école hors contrat, donc on n'est pas subventionné par l'éducation nationale, mais par contre on en respecte tous les programmes scolaires. On est vraiment tenu de fonctionner comme une école classique, mais par contre on fonctionne vraiment avec les personnes qui sont là, et pour faire vivre l'école il faut absolument des bras, des personnes, donc on met les parents à contribution effectivement pour diverses tâches qui vont être là. Par exemple, c'est la rentrée, il y a des parents qui vont venir aider à installer, à réinstaller l'école, à tout nettoyer, à tout ranger, à tout préparer, à entretenir le jardin, voilà. Donc ça, c'est par exemple. Il y a également une place importante des parents autour des garderies parentales, parce que l'école termine à 16h30, mais pour pouvoir prolonger un petit peu le temps pour les parents qui travaillent, notamment, on prolonge jusqu'à 17h. Donc, il y a une petite garderie parentale. Donc, on se relaie entre parents pour garder les enfants sur cette période-là. C'est tout au long de l'année, c'est aussi les parents qui gèrent le ménage de l'école à tour de rôle. Voilà. Et puis, on crée des événements pour récolter des fonds autour de l'école, et puis aussi pour la convivialité, tout simplement. Et donc, les parents sont mobilisés. Enfin, c'est eux qui sont porteurs, notamment, de ces événements-là, quoi.
Vous accueillez des enfants à partir de 2 ans et demi jusqu'à la fin du cycle maternel. Juste avant, on a pu évoquer la pédagogie Steiner et la pédagogie par la nature. Mais quel est le déroulé, en fait, d'une journée type dans l'école, les pieds dans l'herbe ?
Donc l'accueil se fait dehors, les enfants ont leur porte-manteau à l'extérieur, enfin sous le préau, donc tout est organisé pour que l'accueil se fasse dehors. Les enfants qui sont déjà arrivés jouent dans le jardin librement le temps que tout le monde arrive. Une fois que tout le monde est prêt, on part en balade, c'est vraiment la première chose qu'on fait. On part en balade dans la ferme, c'est l'occasion d'aller dire bonjour aux animaux. Voilà, c'est pour certains enfants où le moment de séparation du matin peut être un peu difficile. En fait, ça aide beaucoup. Le contact aux animaux est vraiment très apaisant pour certains enfants. Voilà, donc un grand tour dans la ferme. On a un petit rituel où chacun se présente, où on fait des petites chansons, un peu finalement comme dans une autre école maternelle, sauf que nous, on le fait au milieu d'une prairie, ou devant les vaches, ou avec les cochons, voilà. Et puis on rentre faire un atelier, donc dans le jardin en général. Donc c'est quelque chose qui a soit un lien avec le travail à la ferme, donc on peut faire du pain... on peut cuisiner les légumes qu'on a été chercher au potager avec le maraîcher de la ferme. Voilà, il y a beaucoup de liens avec le travail de la ferme, ou des bricolages avec les choses qu'on a ramassées pendant nos balades. Donc beaucoup de liens avec la nature. Voilà un peu nos activités du matin sont assez proches de la nature. Et puis après, le reste de la journée, c'est toujours très ritualisé. De toute façon, comme dans toute maternelle, puisque c'est vraiment le besoin des enfants de cet âge-là. Donc un temps histoire avant le repas, des comptines, des petites chansons, voilà, le repas, la sieste. Donc on a donc notre pièce à l'intérieur. La belle saison ne sert uniquement qu'à la sieste. Voilà, sinon c'est toute la journée dehors. Et puis la fin d'après-midi, c'est à nouveau dehors. Avec des jeux, pas mal de jeux de société l'après-midi, et c'est l'occasion aussi de faire un temps un peu plus spécifique avec les plus grands, ou avec donc soit des jeux de société vraiment spécifiques à leurs compétences à ce moment-là, à leurs envies de ce moment-là, ou d'aller un peu plus loin sur des choses scolaires pour ceux qui en ont envie et qui sont prêts. Voilà. Et puis après le goûter en fin de journée.
Je m'appelle Jessica, je suis la maman de Alix qui a 3 ans. Donc elle a déjà fait une première année à l'école. Elle a commencé en septembre, donc elle avait 2 ans et demi. par rapport à son évolution, c'est vrai qu'au début, on se disait, bah, j'espère que, par contre, elle va évoluer comme un autre enfant de son âge qui va en école standard, on va dire. Et en fait, ça y est, on est sûr que oui, il n'y a pas de souci, ça marche. On voit bien que... elle n'a aucun retard par rapport à d'autres enfants et qui pourraient aller en autre école. Hein. Elle s'est déjà bien comptée. Là, pendant les vacances, on a vu qu'elle commençait à écrire son prénom. Non, il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. Et puis, quand elle rentre le soir, moi, je vois par rapport aux deux grands, ils ne nous racontaient pas trop ce qu'ils faisaient à l'école. C'était toujours la même chose, en fait. Et là, vraiment, elle, le soir, c'est une vraie pipelette. J'ai vu les cochons, j'ai fait ça, on a fait à manger. On sent dans son comportement qu'elle est heureuse de venir à l'école. Et du coup, nous, ça nous rassure et on est heureux. Et en plus, quand on vient dans cette école, nous, on s'y sent bien. Donc, on ne voyait pas pourquoi Alix ne s'y sentirait pas bien, quoi.
Est-ce que l'école, aujourd'hui, a des besoins particuliers ?
Bah, actuellement, on a une équipe pédagogique qui est constituée de deux personnes. Donc, on a deux salariés, donc Anaïs qui est ici et également Teresa qui est la deuxième pédagogue. Nous on est vraiment ravis de cette équipe qui fonctionne très bien, ce duo qui fonctionne très bien. Après, on aimerait avoir plus d'enfants. Actuellement, on va faire une rentrée à 12 enfants et on a une capacité de 16 enfants. Donc on pourrait avoir quelques enfants en plus, ce serait chouette pour la dynamique et puis voilà, ça nous permettrait aussi d'arriver à l'équilibre financier pour l'école. Donc on fonctionne aussi avec des volontaires en service civique. Donc l'année dernière, on avait deux volontaires qui sont là au quotidien auprès des enfants. Cette année, on recherche toujours nos volontaires en service civique. En fait, on a deux missions un petit peu différentes. On a vraiment une mission en lien avec la pédagogie. Donc là, c'est vraiment une mission au contact des enfants, avec un soutien au quotidien. Et la deuxième mission, c'est plus une mission qui est en lien avec tout le projet de l'association. Donc il y a effectivement également du temps passé avec les enfants, parce que c'est important, c'est le cœur de notre projet, donc c'est passer du temps avec les enfants, être au contact de l'équipe pédagogique. Mais dans la semaine, il y a des temps prévus pour plutôt accompagner les bénévoles associatifs sur comment est-ce qu'on communique sur l'école. Ça peut être se déplacer dans un salon pour tenir un stand, présenter l'école, participer à créer des événements sur la ferme pour récolter des fonds. Donc voilà, c'est en lien au soutien de la vie associative. Voilà.
Si vous souhaitez contacter l'école Les Pieds dans l'Herbe, vous pouvez passer par leur site internet écolealaferme.com, leurs réseaux sociaux ou encore par mail via lajardinière@vivaldi.net. Maintenant, une pause musicale signée Lunar que vous pourrez retrouver demain à la chapelle du lycée à Ambroise-Paré à 16h30 dans le cadre du Chaînon Manquant. On écoute Promessa.
Si nuestras soledades nos impiden llorar, que la luz arde, que la flor ya se sintiera sin mar. Y si el dolor del pasado, que tanto daño ha causado, naufraga en el mar que tanto he llorado, demain je m'en irai vers des terres. Je partirai l'annoncer en apôtre, cantar, siempre cantar. Siento el perfume de ese recuerdo que me llena. El cielo truena y me deja un recado, una promesa, siempre estaré a ti. des terres bien hautes. Demain je partirai l'annoncer en apôtre. El perfume de ese recuerdo que me llena. El cielo truena y me deja un recado, una promesa. Siempre estaré a tu lado y contigo lucharé. Siempre estaré. Siempre estaré a tu lado y contigo lucharé.
On dit souvent que l'on se quitte pour mieux se retrouver. Eh bien, c'est le cas, je crois, car il est de retour, il est là. Le Chaînon Manquant revient pour la 32e édition et dès aujourd'hui, du théâtre, de la danse ou encore un concert illustré. Les spectacles investissent les salles de Laval et de Changé. L'occasion pour vous de sortir votre calepin, votre agenda et de prendre note des dates que vous ne voudriez pas manquer. Le programme dans les mains ou dans la poche, vous allez, je l'espère, sélectionner, choisir vos rendez-vous artistiques des jours à venir. Parce que le Chaînon Manquant fait un peu partie de la maison, bien implanté sur notre territoire, nous avons voulu aller à la rencontre des organisateurs qui œuvrent toute l'année pour vous offrir le meilleur. C'est au micro de Caroline de Laval dans notre émission spéciale Pré-Chaînon Manquant. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'émission dans son entièreté en podcast sur notre site internet. Puisque nos plus belles rencontres, on les partage avec vous. Je vous laisse écouter Kevin Douvillier, co-directeur mais aussi responsable artistique et animation du réseau.
Alors, le Chaînon, c'est d'abord un réseau. C'est un réseau de 367 salles de spectacle dans toute la France qui s'associent pour essayer de mieux repérer et de mieux programmer. Et notamment, ils s'associent aussi pour essayer d'aider le mieux qu'ils peuvent en fait, des projets qu'ils ont repérés sur le territoire et qui n'ont pas les moyens de dépasser les frontières de leur département, de leur région. Donc c'est d'abord un objet, un outil effectivement collaboratif qui va permettre à des dizaines et des dizaines, des centaines même de projets de circuler en France entière et qui va permettre surtout à environ 400 000 spectateurs à découvrir des projets émergents. De tout type, c'est-à-dire du théâtre, de la danse, de l'humour, de la musique, du jeune public, voilà. Et la meilleure manière, en fait, de se montrer des spectacles, c'est de créer un festival, c'est d'organiser un festival. Donc, durant 6 jours, on va présenter 71 spectacles pour que nos adhérents, ces fameuses 367 salles de spectacle, viennent voir les spectacles. Mais un spectacle juste avec des pros, ben c'est triste. Donc on l'ouvre au public, on en profite pour ouvrir complètement les portes au public lavallois et mayennais.
On peut peut-être faire la lumière, c'est quoi le Chaînon ? Pourquoi ce nom ? Qu'est-ce que c'est comme outil ? Est-ce que c'est un outil de repérage, de programmation, de diffusion ? Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce festival ?
C'est les salles adhérentes qui vont d'abord faire une sélection d'environ 120-130 projets et qu'ils vont montrer sur leur territoire. Ça s'appelle les régions en scène. C'est des petits chaînons qui ont lieu de début janvier jusqu'à fin mars. Et moi, je vais faire en fait ces 11 festivals. Il y en a 11 au total qui ont des tailles voilà, différentes. Il y a certains qui présentent 5-6 projets, d'autres qui vont en proposer une vingtaine de projets. Et moi, je vais faire le tour de ces 11 festivals et je vais en tirer avec eux une sélection. C'est-à-dire que cette année, par exemple, c'est 30 projets issus des régions en scène qui vont être proposés sur les 71 spectacles. Ensuite, on va, comme on est des généralistes, on va aller se rapprocher, on va se rapprocher de certains spécialistes, comme on l'a fait à une époque avec l'Attitude Marionnette, ou comme on le fait cette année avec l'IGM France, les spécialisés dans le spectacle musical pour le jeune public, ou comme on le fait avec Fédé Chanson, qui a un réseau spécialisé dans la chanson. Et ben, on va aller voir ces spécialistes et on va leur demander, conseillez-nous des spectacles en fait, qui pourraient vraiment intégrer le réseau des généralistes. Et troisième repérage possible, c'est mon repérage que je peux faire à l'année, que j'officie essentiellement en fait dans les grands festivals, dans les grands événements culturels. Donc je vais à Avignon, à Circa pour le cirque, là je reviens d'Aurillac par exemple pour les arts de rue, et puis aussi par une présence à Paris qui me permet d'aller voir pas mal. Moi je vois aux alentours entre 500 et 600 spectacles, mais ce repérage il repose aussi sur le réseau, sur le bouche à oreille, sur les témoignages des uns et des autres. À un moment donné, quand 1, 2, 7, 8, 10 adhérents me parlent d'un même spectacle, bah là, il y a un peu alerte rouge et généralement, ce spectacle, il est formidable.
Du coup, on voit tout de suite la plus-value en fait pour à la fois les programmateurs, les salles, bah, et puis pour les artistes.
Il y a un vrai truc, une vraie histoire de solidarité. Alors, de solidarité de métier, mais aussi de solidarité humaine. Parce qu'on fait tout ça pour permettre à des super spectacles d'être vus par le plus grand
la plus
nombre.
Grande audience possible.
Et, et surtout de le faire sans que ces artistes risquent leur peau. Je dis ça parce qu'il y a de moins en moins en France des événements ou des endroits de repérage. Maintenant, ça se concentre sur Paris ou à Avignon. Et faire un mois d'Avignon pour un artiste, c'est 40 000 euros à emprunter pour exister, quoi. Et pour être vu et pour se battre là-bas sans avoir la garantie d'être vu. Ici,
c'est une alternative, du coup.
Ils sont embauchés. Clairement, ça leur coûte quasiment rien de venir au Chénon. Et ils ont la garantie d'être vus par au moins, au minimum, 50-60 professionnels.
Une grande diversité, en fait, de genres, du théâtre, de la musique, du cirque, de la danse.
La danse,
les arts de rue, les arts circassiens. De l'humour.
Bah, un peu toutes les disciplines qu'on voit dans la plupart des théâtres en France.
Bah oui, c'est ça. Donc une grande diversité avec peut-être un accent sur la scène musicale jeune public.
En fait, cette diversité est assez unique. Parce que, mis à part le Festival d'Avignon, et encore sur des proportions assez différentes, en fait, il n'y a pas d'autres festivals en France qui présentent autant de diversité. Enfin, que ce soit professionnel ou un public, on peut aller voir un spectacle jeune public le matin, puis enchaîner avec un spectacle de théâtre, voir un concert à la chapelle de lycée Ambroise Paré entre midi et deux, puis ensuite enchaîner avec un spectacle de danse, ensuite aller voir un autre jeune public ou un spectacle de cirque, et pour terminer avec un plateau avec trois artistes le soir. Donc on peut le faire à Avignon, c'est pas simple parce qu'en fait les proportions, il y a sur 1500 spectacles, il y a 1200 spectacles de théâtre, il va y avoir 50 spectacles de danse, et donc les proportions sont différentes, mais il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas d'autres festivals en France
qui proposent cette diversité,
même en Europe, je ne sais pas, mais en tout cas en France c'est sûr qu'ils proposent cette diversité.
Vous êtes toujours sur l'autre radio, 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. L'agité du local continue. Vous le savez, à l'autre radio, on aime les mots et on aime ceux qui jouent avec. Oh, vous le sentez venir. On pense directement à lui. C'est le moment de retrouver la chronique de Donatien qui aujourd'hui nous parle du pont Mirabeau.
Donatien, aujourd'hui 12 septembre, a décidé de parcourir le halage qui mène de Laval à Château-Gontier. Pas de problème, grâce à l'assistance électrique, les kilomètres défilent sous les aulnes, les saules et les noisetiers. Se succèdent le pont d'Avenières, celui d'Entrammes, le pont de Lavalette et, arrivé au nouveau viaduc, c'est à pied que Donatien envisage les 131 marches savamment échelonnées sous l'arche principale. De là-haut, bien sûr, c'est au pont Mirabeau que pense Donatien, et ça tombe à propos, puisqu'aujourd'hui, 12 septembre, c'est la Saint-Apollinaire. Donatien, assoiffé d'amour et de bonnes attentions, ne saurait se contenter d'attendre le 24 mai qu'on lui souhaita sa fête. Il a le cœur en joie le jour de la Saint-Félix, de la Saint-Désiré, de la Saint parfait, j'oubliais la Saint modeste. Et il est impatient, le bougre, d'être à demain, 13 septembre, jour de la Saint Aimé. Point d'impatience, Donatien. Sous le pont Mirabeau, la vie est lente et seule l'espérance est violente. Le poème est sans appel, passe les jours et passe les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Ça suffit, la poésie, au diable vos vers, la mélancolie, la tristesse et la nostalgie. Les regrets, en ce début septembre, Donatien les renvoie à la Saint-Glinglin. Il redescend les 131 marches beaucoup plus lestement qu'il ne les avait gravies, retrouve sa bicyclette et son assistance électrique, et le cœur léger, dans le sens du courant, suit la rivière en direction de Château-Gontier. Ce soir, à la guinguette, sous l'ombre des tilleuls, Donatien invitera Ariane pour prolonger l'été, installer dans les transats et rallonger les douces soirées de septembre. Ce sera comme un avant-goût de l'été de la Saint-Michel ou de l'été de la Saint-Martin. Donatien se perd dans le calendrier. Il n'est pas encore temps de ramasser les feuilles mortes à la pelle. Puisque l'été joue les prolongations, Donatien sifflote un air de Jodassin, ralentit le coup de pédale, s'arrête pour aller s'étendre sur un ponton réservé à la navigation, ferme les yeux et laisse son imagination voguer au loin, au-delà de l'océan, au pays de l'été indien.
Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
c'est déjà la fin de cette émission, mais je vous conseille de rester avec nous sur les ondes de l'autre radio, puisqu'à 19h, vous pourrez entendre à la jeunesse les micros. Ce sont les voix d'une jeunesse pétrie d'interrogations, de doutes et d'aspirations. C'était pendant le Festival d'Avignon, au cœur du cloître Saint-Louis, de jeunes adultes interrogent le monde et mettent leurs mots sur ce qui conjointement nous arrive, nous transforme, nous vivifie ou nous embrase. Ensuite, à 21h, c'est Frères de chaussures, mais attention, Frères avec un accent circonflexe, une émission sur le rap français présentée par Fatshu. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 12h15 pour une nouvelle émission de l'Agité du local. Et d'ici là, faites-le bien.
Bon ben, Mimi, on dirait que c'est fini.